Amen. Gloire au Seigneur. Voyons, nous sommes heureux de nous retrouver cet après-midi. Béni soit le Seigneur pour ces chants que nous avons chantés, qui nous ouvrent le cœur, qui nous préparent le chemin à rencontrer Jésus-Christ cet après-midi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. On va faire une lecture un petit peu longue, mais je pense nécessaire, dans l'évangile de Marc au chapitre 15. On va lire à partir du verset 21. Il est écrit « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et il conduisait Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais ils ne prirent pas. » Ils le crucifièrent, ils se partagèrent ses vêtements et tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. On va ensemble au verset 33 de ce même chapitre. Il est écrit « La sixième heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici l'appel Élie », et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire en disant « Laissez, voyons, si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». On va ensemble au chapitre 16 de ce même évangile. Il est écrit « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus ». Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » On va au verset 9. « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et qui pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut, il s'agit bien entendu de Jésus-Christ, sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il s'agit là de Jésus-Christ, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressuscité. Amen. » On lira un autre passage un peu plus tard. Voilà, on a fait une longue lecture, mais je pense qu'il était nécessaire. Nous avons vu, et nous avons lu ensemble du moins, que Jésus a été crucifié, qu'il a été mis dans un tombeau, et que Jésus-Christ est ressuscité. C'est là une vérité fondamentale. C'est là une expérience de foi. C'est là ce qui sert de base, de norme à la vie chrétienne. Jésus-Christ est ressuscité. Nous nous sommes rassemblés cet après-midi dans ce lieu, nous avons chanté Jésus-Christ, nous avons prié Jésus-Christ, nous lisons la parole de Jésus-Christ, nous lisons la parole de Dieu pour la simple et unique raison que Jésus-Christ n'est pas resté sur la croix, que Jésus-Christ n'a pas été englouti par la mort, mais pour cette raison que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et c'est là une vérité qui doit nous accompagner et qui doit en tout cas nous interpeller cet après-midi. Et c'est une vérité que Jésus-Christ a voulu propager. Nous avons lu, et il s'agit là de trois femmes qui sont venues le matin, elles avaient tout préparé, le troisième jour, elles se sont dit, mais voilà, on va aller voir le tombeau, on va aller voir où est notre Seigneur. Simplement, elles s'inquiétaient d'une manière un peu concrète, matérielle, en disant, mais comment on va faire pour rouler la pierre, pour ouvrir? Simplement, il y avait cette vérité, et c'est cette vérité dont on va parler cet après-midi, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. C'est que peu importe nos problèmes cet après-midi, comme il nous a été présenté pendant les chants, peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, peu importe les péchés qu'il y a eu et que peut-être nous avons encore aujourd'hui, il y a une personne qui peut faire toute la différence. Il y a une personne parce que cette personne a vaincu la mort. Et au-delà de cette victoire sur la mort, c'est une victoire pour chacun d'entre nous, c'est une victoire qui nous est donnée gratuitement, si je puis m'exprimer ainsi, parce que pour nous ça a été gratuit, mais pour Jésus-Christ, vous comprenez bien qu'il a payé de sa vie. Et c'est là, en tout cas, ce qui doit vraiment toucher notre cœur, et c'est la prière de notre cœur, de plusieurs qui avons fait l'expérience de vivre et de voir Jésus-Christ ressuscité dans notre vie, cette expérience de pouvoir expérimenter que notre vie va être libérée de ce poids du péché. Ces femmes avaient une mission, et c'est cette mission qui est intéressante, c'est que elles devaient dire que Jésus-Christ n'était plus dans le tombeau. Elles avaient cette mission-là de dire, mais voilà, il y a les autres disciples, il y a des disciples, ceux qui avaient suivi Jésus-Christ lorsqu'il était dans son ministère terrestre encore en vie, ils avaient suivi Jésus, ils avaient été le témoin de miracles extraordinaires, et là, il y en a en tout cas quelques-uns qui s'affligeaient, qui étaient dans le désespoir, qui n'avaient pas du tout compris que Jésus-Christ devait donner sa vie. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Jésus-Christ allait être un leader politique. Ça allait être quelqu'un qui allait révolutionner, qui allait peut-être chasser l'influence, l'empire romain du peuple d'Israël, qui allait les libérer. Les hommes religieux voulaient mettre quelqu'un sur le trône pour qu'il puisse les gouverner, mais Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Jésus-Christ est venu pour accomplir le plan d'amour de son Père, pour accomplir ce que les prophètes ont dit, ont annoncé il y a de ça des centaines et des centaines d'années avant sa venue. Et ces sœurs-là, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, Salomé, elles devaient dire, voilà, ne pleurez plus, ne restez plus dans l'affliction, ne restez plus prostrés, ne restez plus renfermés sur vous-même, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Parce qu'il était tellement important pour les personnes de l'époque et pour nous cet après-midi, de pouvoir comprendre que Jésus-Christ est réellement ressuscité, que cette puissance, cette victoire, tout ce qu'il a pu accomplir, ça ne s'est pas arrêté à ce moment de l'histoire de l'humanité où il a été mis sur la croix et ensuite mis dans un tombeau. Ses promesses ne se sont pas arrêtées au tombeau. Ses promesses, en aucun cas, n'ont été crucifiées sur la croix avec lui, comme pour dire, mais voyez, cela ne sert à rien de se confier en Jésus-Christ, parce que ses promesses ont été mises sur la croix avec lui. Non, je pense qu'il y a cette espérance qui est là encore actuelle pour chacun d'entre nous, c'est que, et je le redirai vraiment cet après-midi, et s'il y a une seule chose, peut-être, j'exagère en disant une seule chose, mais peut-être un message important peut-être à recevoir, c'est que Jésus-Christ est vivant, et parce qu'il est vivant, il peut agir. Parce qu'il n'est pas resté sur la croix, il peut intervenir dans nos vies. Parce qu'il n'est pas resté sur la croix, parce que ses promesses ne sont pas restées sur la croix, il peut encore bouleverser notre vie, notre existence, comme il a fait et comme il veut le faire encore. Mais il faut qu'on puisse avoir cette foi en nous. Parce que ses sœurs se sont trouvées confrontées à des difficultés. Et on l'a lu ensemble. La première fois, elles vont aller voir les disciples pour dire « Mais voilà, il est ressuscité ». Et un autre texte, c'est dans l'évangile de Luc, on ne l'a pas lu, mais il est écrit que les disciples qui étaient là, c'est dans Luc 24, si vous voulez lire cela chez vous, à la maison, il est écrit « Ils tinrent, donc il s'agit des disciples, ses discours pour des rêveries ». pour des rêveries. Et là, ces sœurs qui étaient pleines de bonnes intentions se sont retrouvées confrontées à un manque de foi. Ensuite, Jésus-Christ est apparu à deux disciples qui, dans d'autres évangiles, est relaté comme les disciples d'Emmaüs. Et lorsque les disciples d'Emmaüs ont fait cette rencontre extraordinaire, qu'ils ont voulu rentrer pour raconter cela, ils se sont trouvés eux aussi confrontés à un problème, à ce manque de foi. Et on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, la pensée vraiment de cet après-midi, c'est peut-être pour quelques personnes qui sont là, c'est... Tu as besoin de combien de fois d'entendre l'Évangile pour croire ? Est-ce que tu es semblable aux disciples ? Tu es là dans l'affliction, dans la détresse, dans les problèmes, dans les difficultés, et sans cesse on vient de parler de Jésus qui peut guérir. Sans cesse on vient de parler de Jésus qui peut intervenir dans ta vie. Mais à l'image de ces disciples, à l'image de ces hommes qui n'avaient pas tout compris, en tout cas à l'époque, tu fermes la porte de ton cœur et tu dis « non, je ne crois pas ». Tu as besoin de combien de fois cet après-midi d'entendre que Jésus peut te guérir de tes maladies, de tes détresses, pour enfin ouvrir ton cœur à ce Jésus-Christ, à Jésus-Christ qui n'attend qu'une seule chose, c'est que tu puisses venir le trouver, c'est que d'une manière concrète, tellement simple de dire « Seigneur Jésus, je veux croire en toi, je crois en toi, voilà mes problèmes, voilà la guérison dont j'aurai besoin, voilà les personnes pour lesquelles je prie. » Et Jésus-Christ est capable de le faire parce que comme nous l'avons lu et comme vous le savez très bien, Jésus-Christ est ressuscité. Ne soyons pas et ne fermons pas la porte comme ses disciples. Ne disons pas « mais ces discours sont comme des rêveries ». Ne disons pas que Jésus-Christ est seulement pour les autres. Alors que je méditais sur ces textes, il m'est venu en tête une parabole que Jésus-Christ a pu donner. Il s'agit de la veuve persévérante. Peut-être qu'on ne va pas... oui, si on pourrait le lire, c'est dans Luc 18, c'est pas très long. Luc 18, versets 1 à 8, il est écrit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il le fera promptement justice, mais... quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien ? J'ai vraiment été surpris, je me suis dit, mais voilà, on est un peu dans le même cas de figure, parce que cette veuve, quelque part, elle nous ressemble. Vous savez, on est fort et on, dans des moments de notre vie, on aime se tourner vers Dieu. Je dirais naturellement. Naturellement, c'est le cœur de l'homme qui est là, qui refuse Dieu. Parce qu'il y a toujours cet orgueil, il y a cette pensée qu'il y a dans le cœur de l'homme de dire « mais moi je peux m'en sortir de moi-même ». Et on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas entendre dire qu'on est pécheur, on ne veut pas entendre dire qu'on a besoin de demander pardon, on ne veut pas entendre dire qu'on a besoin de la repentance, de la croix. Et c'est ainsi, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais malgré tout, lorsqu'il y arrive des difficultés, lorsqu'il y arrive des catastrophes dans nos vies, on a quand même cette tendance à dire, à faire une prière même, et peut-être certains dans leur témoignage l'ont vécu, une prière en disant « Seigneur, pense à moi, Seigneur, je ne sais pas si tu existes, mais voilà ce qui arrive dans ma vie ». Et ce que le Seigneur est en train de dire, bien sûr, il va enseigner sur la prière, mais cet après-midi, on pourrait peut-être le prendre d'une manière différente. Il est en train de dire, mais voilà, de la même manière que ses disciples ont suivi Jésus, mais lorsqu'il a été question de la résurrection, ils n'ont pas compris. De cette même manière, il est en train de dire, mais voilà, on a besoin de Dieu, et peut-être c'est le cas d'une personne, on a besoin de Dieu pour nous faire justice, et Dieu va répondre. On a besoin de Dieu pour nos bénédictions, et Dieu va répondre. On a besoin de Dieu lorsqu'on a, des problèmes, lorsqu'il y a des catastrophes qui arrivent, et Dieu va répondre. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans la parole qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais? Il y a une bénédiction qui est là, et Dieu entend. Dieu reçoit les prières qui sont faites dans le secret des cœurs. Dieu est là et capable toujours de répondre, et de cette manière-là, mais simplement, voilà, Dieu veut nous amener un petit peu plus loin cet après-midi, de cette manière de dire, mais voilà, je suis capable de répondre, comme il a été auprès de ses disciples en disant, voilà, je vous montre ce chemin, je vous montre un exemple, mais quand on parle de résurrection, où est notre foi? Lorsqu'on t'explique que tu as besoin de te confier en Jésus-Christ parce qu'il est vivant, lorsqu'on t'explique que tu te confies en Dieu pour tes problèmes, et c'est bien, tu as raison, et Dieu aime l'humanité, Dieu a donné son Fils pour qu'il puisse vivre au travers de lui, parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, et Dieu a voulu donner volontairement son Fils, Jésus-Christ s'est donné d'une manière volontaire, et c'est là une réalité, tu as raison de crier à Dieu quand ça ne va pas. Mais est-ce que toute ta vie, tu vas rester dans ce sens? Est-ce que toute ta vie, tu vas rester en dehors de cette vie de résurrection de Jésus-Christ? Est-ce que toute ta vie, tu vas considérer Dieu comme, excusez-moi l'expression, comme un distributeur de bénédictions, comme quelqu'un à appeler en cas d'urgence, vous savez, comme ces petites choses qu'il y a dans les bâtiments qu'on brise en cas d'urgence et ça déclenche l'alarme? Est-ce que tu considères Dieu seulement comme ça, ou ne sens-tu pas le besoin cet après-midi de considérer un petit peu plus en profondeur ce que Jésus-Christ a fait pour toi? On a besoin, et tu as besoin, toi qui es là cet après-midi, et peut-être que je m'adresse à un frère, une sœur qui délaisse cette vérité fondamentale, c'est que Jésus-Christ est ressuscité, qu'on ne peut pas agir à son égard comme un petit enfant qui est là et qui désire des choses sans prendre position dans le monde, sans se dire, mais après tout, si Jésus-Christ est vivant, je dois le suivre, je dois le respecter, je dois faire sa volonté. Cet après-midi, on a le choix. On a le choix de réagir comme les disciples en disant « mais peut-être que ces discours, ce ne sont que des rêveries. » Ou alors, on a le choix de considérer vraiment ce que la parole de Dieu dit. On a le choix de s'appliquer à la lire. On a besoin, et c'est même une nécessité, d'ouvrir notre cœur pour dire « Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je veux avoir foi en toi, je veux placer ma confiance en toi. » Il y a cette deuxième chose, et peut-être que je vais y passer un petit peu plus rapidement, c'est sur les deux personnes, ce que dans d'autres évangiles est appelé les disciples d'Emmaüs. Il était dit que Jésus, sous une autre forme, va se présenter à deux autres disciples qui vont prendre la route vers la campagne, et on pourrait vraiment dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas être trop long cet après-midi. Et alors que je méditais, je me suis dit, mais voilà, peut-être que c'est là aussi un élément à considérer, parce que quelquefois, on pense que l'Évangile, c'est seulement pour les autres. C'est seulement pour les autres. On pense que Jésus-Christ est capable de bénir seulement les autres. Seulement les autres. Et ces deux disciples d'Emmaüs, ça fait penser un peu au témoignage de chacun. Et dans cette même pensée que combien de témoignages auras-tu besoin d'entendre pour croire que Jésus-Christ est capable d'agir? Vous savez, il y a des personnes qui sont là, qui sont dans les difficultés. On leur parle de Dieu, de l'Évangile, de ce que Jésus-Christ a fait. On leur parle que leur vie peut être complètement changée, bouleversée. Et il y a comme un voile devant leurs yeux, comme une réalité qu'ils sont construits eux-mêmes en disant « mais c'est seulement pour les autres. Dieu ne peut bénir seulement cette personne, mais c'est comme s'il y avait cette interdiction pour elle de pouvoir goûter à la bénédiction. Cet après-midi, nous voulons vivre ce que les disciples d'Emmaüs ont vécu. Cet après-midi, même si nous avons pris une direction opposée, même si nous avons quitté Jérusalem, même si nous avons laissé un peu la Bible de côté, la parole de Dieu, même si nous avons laissé l'Église ou même si nous avons laissé le nom de Jésus de côté, nous voulons considérer que Jésus-Christ est encore capable de nous parler, capable de nous ramener dans le bon chemin. Nous ne voulons pas bloquer notre cœur, nous ne voulons pas dire non, nous ne voulons pas croire à ça, mais nous voulons ouvrir notre cœur en disant, mais voilà, puisque je vois, vous savez, l'Église, c'est quand même extraordinaire parce que c'est le témoignage vivant de ce que Jésus-Christ peut faire encore aujourd'hui. Dans l'Église, nous pouvons y voir des frères et des sœurs, peut-être on ne leur aurait jamais parlé avant. On se serait croisés, on n'aurait même rien dit, pas bonjour, rien. Peut-être en d'autres circonstances, on aurait pu avoir des mots, on aurait pu avoir un langage un peu limite. Mais voilà l'Église de Jésus-Christ, c'est cette Église qui rassemble l'ensemble des rachetés. C'est cet endroit où nous pouvons nous retrouver parce que Jésus-Christ est ressuscité. C'est cet endroit où nous voyons dans les vies des uns, des autres, l'œuvre de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ est capable de faire en profondeur. Ce que Jésus-Christ est capable de changer. Ce que Jésus-Christ est capable de bouleverser, non sans notre accord, mais en nous respectant d'une manière extrême parce qu'il a un amour extrême pour chacun d'entre nous. À Nice, on a un frère qui avait de la famille convertie, chrétienne, et lui a toujours refusé de s'intéresser à ça. Il a toujours dit « non, c'est pas pour moi ». Il avait une situation professionnelle très confortable, il travaillait dans la finance, en région parisienne. Son frère lui parlait sans cesse de Dieu, mais lui ne voulait rien entendre. Il gérait une équipe de 15 personnes, il disait qu'il brassait des millions et des millions d'euros. Il avait une situation comme on peut l'imaginer, sans problème, sans difficulté. Et il n'a jamais voulu entendre l'Évangile, toujours en disant « mais c'est pour les autres », jusqu'au jour où sa vie a commencé à chanceler, jusqu'au jour où tout ce qu'il avait commencé à bâtir, ça s'est écroulé petit à petit. Et là, il a tourné son cœur vers le Seigneur. Et je dis ça pourquoi ? Parce que ce frère qui était dans une condition aisée, qui avait tout ce qu'il pouvait vouloir, qui avait un salaire, on ne pourrait même pas se dire avec notre entendement combien il gagnait par mois, il n'avait jamais été heureux. Et alors qu'il arrive dans notre église, il se tourne vers le Seigneur, il s'engage dans les eaux du baptême et sa situation professionnelle était catastrophique, au point où cette personne qui vivait dans le luxe s'est retrouvée hébergée par un frère. Et au point où cet homme qui peut-être avait connu les plus grands restaurants parisiens et que sais-je encore, bénéficiait de la banque alimentaire. Et ce frère, je le revois encore me dire, mais voilà, aujourd'hui je suis heureux. Aujourd'hui ma vie a complètement changé. Aujourd'hui j'ai trouvé la paix. Aujourd'hui j'ai trouvé le bonheur. Jésus-Christ est capable de toucher notre vie. Cela, une vie qui ne va pas dépendre des circonstances, des biens matériels, de ce qu'on pourrait avoir, mais une vie qui va dépendre uniquement de l'amour de notre Sauveur. Nous n'avons pas besoin, et peut-être cet après-midi, nous devons considérer si on a pris l'habitude de venir dans ce lieu, peut-être dimanche après dimanche, ou dans les réunions de semaine, sans avoir vraiment fait de choix, sans ayant pris position à l'intérieur de nous pour Jésus-Christ, en continuant notre vie, en étant un petit peu dans le monde et un petit peu avec Dieu, on ne sait pas trop où est notre place. J'aimerais vous dire cet après-midi que votre place est auprès du Seigneur. Parce qu'il a payé le prix pour cela. J'aimerais vous dire que votre place, elle est dans les bras d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été crucifié pour cela. N'essayons pas d'attendre d'avoir des témoignages et des témoignages. Combien de témoignages il te faudra pour comprendre que Jésus-Christ t'aime ? Combien de prédications, et plaise à Dieu, que nous puissions prêcher l'Évangile en liberté cet après-midi ? Mais combien de prédications il va falloir pour que ton cœur s'ouvre, pour que tu puisses comprendre que si Jésus-Christ s'est donné, c'est pour toi qu'il s'est donné. C'est pour que tu puisses être allégé du fardeau du péché, pour que tu puisses comprendre que Jésus-Christ t'aime d'un amour parfait. Tu n'as besoin de rien faire dans ce monde. Tu n'as pas besoin d'avoir un curriculum vitae qui fasse 3 pages et demie pour plaire au Seigneur. Ce que tu as besoin cet après-midi, c'est de dire « Seigneur, oui, je crois ». Cet après-midi, oui, je veux te faire confiance. Oui, je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu peux agir dans ma vie. Je crois que tu peux me pardonner mes péchés. Je crois que ton sang peut me laver de mes péchés. Je crois que ton sang peut complètement bouleverser ma vie. Je parlais avec une personne qui s'est tournée vers le Seigneur il y a quelques mois en arrière, et c'était une tout jeune convertie. Et elle a pris une image qui m'a vraiment beaucoup plu lorsqu'elle a expliqué comment elle ressentait le salut. Elle a dit, c'est comme si les fenêtres de mon corps étaient toutes ouvertes. C'est comme s'il y avait enfin de l'oxygène qui venait en moi. C'est comme s'il y avait ce vent en moi, cette aération. C'est comme si enfin je respirais. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Peut-être que tu te replies sur toi-même, tu es là en proie et tu n'arrives même plus à respirer d'une manière spirituelle, j'entends. Peut-être que tu es étouffé par la vie, tu te demandes le sens de ta vie, le but, pourquoi tu es sur terre. Peut-être que même toi qui es là, qui t'es tourné vers les Seigneurs, tu oublies que Jésus-Christ est ressuscité, tu oublies qu'il peut agir dans ta vie, tu oublies qu'il peut complètement bouleverser, qu'il peut changer le mal en bien, tu oublies qu'à ton travail, Jésus-Christ est avec toi parce qu'il est ressuscité et qu'il est capable de te faire passer au-delà des moqueries ou que sais-je encore, parce que Jésus-Christ a fait cette promesse et je vous l'ai dit que je ne me lasserai jamais de le dire, qu'il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est là une promesse extraordinaire. C'est là la preuve, une autre preuve incontestée de son amour, c'est qu'il jamais va nous abandonner. Jamais il va nous mettre dans un coin, mais c'est là la preuve extraordinaire qu'il nous aime parce que jour après jour, il fait cette promesse d'être avec nous. J'aimerais terminer avec ce texte qu'on n'a pas lu ensemble, mais on va le lire. C'est dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 24. Il est écrit « Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. » Amen. J'aimerais terminer avec ce passage parce que c'est un peu dans la troisième étape de la mission qui était confiée à ses sœurs et après à ses disciples, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, et aux disciples, de pouvoir propager que Jésus-Christ était ressuscité. Et il y a Thomas qui est là. Et Thomas, c'est, quelque part, ça a été moi pendant une période de ma vie. C'est peut-être quelqu'un... On vient pas à l'église comme, enfin, on vient à l'église de temps en temps, on est là et on sait pas trop. Thomas avait suivi le Seigneur, hein, mais finalement il savait pas trop. Et Thomas, il a manqué la première fois où Jésus a apparu. Et vous savez, il a fait comme tous les autres. Lorsque les autres lui ont dit, mais voilà, le Seigneur est ressuscité, il a eu ce même réflexe de dire, non, je ne veux pas croire. Il a eu ce même réflexe de dire, mais non, je ferme mon cœur. Et il est allé un petit peu plus loin, Thomas, parce que lui, il va dire, mais voilà, si je ne vois, si je ne mets pas mon doigt et ma main. C'est autrement dit, mais moi, Thomas est en train de dire, et c'est quelque chose qui vraiment, cet après-midi, doit un petit peu abandonner notre esprit. Il est en train de dire, mais moi je veux voir avant de croire, je veux toucher, je veux mettre, je veux poser, je veux expérimenter, mais d'une manière charnelle, excusez-moi l'expression. Ça veut dire, je veux croire en Jésus, ok, mais d'abord il faut que je puisse toucher, il faut que je puisse voir. Et c'est vraiment une idée qui doit s'en aller de nous, s'en aller de notre esprit, parce que ça va à l'opposé de ce que le Seigneur Jésus demande. Vous savez, on rencontre encore beaucoup de personnes comme cela qui disent « Ah, mais moi, je veux voir, avant de me tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, je veux avoir telle réponse à ma prière. » Il y avait un jeune, je me souviens, qui était à Cannes-sur-Mer et je parlais avec lui. Il avait fait une expérience avec le Seigneur et au début, il disait « Ah, mais je veux m'engager, je veux passer par le baptême, mais avant, je veux que Jésus me guérisse. » Avant, je veux faire ça. Avant, je veux qu'il y ait ça. Avant, je veux qu'il y ait telle et telle chose dans ma vie. Et après, il avait compris, merci Seigneur, qu'il avait besoin de s'engager, peu importe ce qui pouvait se passer dans sa vie. Mais quelquefois, on a ce raisonnement, vous savez. Je veux bien Jésus-Christ, mais d'abord, il faut que j'ai la bénédiction. D'abord, il faut qu'il puisse me guérir, mais d'abord, il faut que... Et le Seigneur Jésus, dans son immense amour, est en train de dire cet après-midi, mais non, vous avez besoin de croire sans voir, vous avez besoin d'expérimenter la foi, vous avez besoin de faire le premier pas, vous avez besoin de vous engager d'une manière désintéressée, vous avez besoin de considérer Jésus-Christ d'une manière complètement désintéressée de ce qu'il peut vous apporter, parce que c'est le roi des rois et parce que lui n'a pas regardé à ce qu'on pouvait lui donner quand il a été crucifié. Lorsqu'il a été sur la croix, il n'a pas dit « Alors, Jonathan, maintenant, je vais voir ce que tu peux me donner. » Il n'a pas dit « Michael, je vais voir ce que tu peux faire. » Non, lorsqu'il a été sur la croix, il s'est donné d'une manière désintéressée. Et d'ailleurs, la signification de lorsqu'il dit, je terminerai vraiment avec ce verset, parce que je pense qu'il veut tout dire, lorsqu'il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », lorsqu'on prend la version, le sens littéral, la signification de « vue », c'est de percevoir par n'importe quel sens. Autrement dit, cet après-midi, laissons les sens de côté, laissons la vue, laissons les sentiments, l'émotion, tout ce qui peut être charnel, laissons ce qu'on peut ressentir de côté, parce que ça nous fait obstacle pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu non pas pour instaurer des émotions dans notre vie, des sentiments, non pas pour éveiller nos sens. Merci Seigneur pour les sentiments, merci si nous pleurons, mais Jésus-Christ n'est pas venu pour cela, Jésus-Christ est venu donner sa vie pour que nous puissions avoir une relation d'amour avec lui. Amen. Amen. On prie un instant si vous le voulez bien. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que tu es tout-puissant, merci parce que tu vas au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, merci parce que tu es ressuscité. Tu as accepté d'être cloué, crucifié, pour nous offrir le pardon de nos péchés. Et cet après-midi, tu nous rappelles ces vérités, Seigneur, cette vérité que tu es ressuscité, que tu es capable d'agir. Et tu nous amènes à considérer cela pour que nous puissions faire des progrès dans notre vie. Père, je te prie, Seigneur, s'il y a dans ce lieu des personnes qui se disent sans arrêt, j'attendrai, j'attends, je préfère attendre, afin de voir encore un autre témoignage, afin de voir encore autre chose, afin d'attendre la prochaine prédication pour me tourner. Je te prie, si dans ce lieu il y a des personnes qui ont cela en eux, que tu puisses les convaincre maintenant de se tourner vers toi aujourd'hui, parce que c'est cela le mot du Seigneur. Je te prie pour ceux qui peut-être ont laissé tomber leur foi, Seigneur, par rapport aux problèmes, qu'ils puissent, Seigneur, revenir vers toi, te faire de nouveau confiance, marcher, Seigneur, parce que cette résurrection, tu nous la communiques. Seigneur, cette vie en abondance, tu nous la communiques cet après-midi. Père, merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu vas le faire, j'en suis convaincu. Merci pour ton amour, ta fidélité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.